Vous êtes sur RTL.
17h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Marseille, une nouvelle fois théâtre d'une fusillade hier soir, 6 blessés dont un grave.
Un homme est entré dans un bar et a ouvert le feu avec un fusil à pompe. Le tireur a été arrêté cette nuit, les détails dans un instant. Et le coup de gueule de la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Samia Ghali. Elle dénonce une nouvelle fois la libre circulation des armes à Marseille. Payer plus ou arrêter de fumer, deux options pour les accros ce matin, alors que le paquet de cigarettes augmente de 50 centimes en moyenne. C'est aussi le début du mois sans tabac. Passage de relais à la SNCF, le départ de Pépi, l'arrivée de Farandou, un homme du Sérail, diversement accueilli par les syndicats. Nous prendrons aussi dans ce journal des nouvelles des gilets jaunes. Un an après le début du mouvement, certains visent les municipales, mais préfèrent laisser de côté l'étiquette devenue un peu embarrassante. On a fait la fête hier soir à Londres, une soirée Halloween spéciale Brexit, un Boris Johnson aux allures de vampire, reportage à suivre. Et puis nous irons à Calais en fin de journal où un dragon vient de s'échouer sur la plage. 15 mètres de haut, 25 de long, 72 tonnes. Superbe créature en métal qui surplombera désormais le port de la ville. Ce sera RTL un jour en France.
À 7h15, la politique avec Pauline de Saint-Rémy.
Alors je vous jure que c'est pas parce que demain c'est le jour des morts, mais j'ai eu envie de vous parler de l'avenir de la droite aujourd'hui.
Ouh là là.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Il était donc 20h40 hier soir lorsqu'un homme a fait irruption dans un bar du 15e arrondissement de Marseille, ouvrant le feu sur des clients. La cité phocéenne, déjà durement frappée par des règlements de compte, ne connaît décidément aucun répit, Étienne Baudu.
Oui, à la veille de la fête des morts, pas de trêve pour la violence. Hier soir, vers 20h45, un homme armé d'un fusil à pompe, visage découvert, descend de sa moto et fait irruption dans un bar du 15e arrondissement de Marseille, le Terminus. Il ouvre le feu, 6 personnes sont blessées, dont une grièvement. Son pronostic vital, heureusement, n'est pas engagé. Le tireur, lui, a aussitôt pris la fuite. 7 étuis de calibre 12 ont été retrouvés sur les lieux. Alors la victime était-elle visée par le tireur? Aucune certitude, tout comme le mobile. La raison en est encore inconnue. Une source proche de l'enquête indiquait hier soir que pour le moment, aucune piste n'était privilégiée, même pas celle d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Le bar Le Terminus, qui a une triste réputation, puisque le soir de Noël 2017, un homme de 26 ans y avait été tué dans le cadre cette fois-ci d'un règlement de compte. À noter que depuis le début de l'année, 10 personnes ont été tuées dans des règlements de compte dans les Bouches-du-Rhône, dont 7 à Marseille. Le dernier remonte à dimanche soir dernier, dans le 13e arrondissement.
Les précisions d'Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Alors je vous le disais en titre, le tireur a été arrêté. Cette nuit, on s'orienterait selon les premiers éléments vers un coup de folie. La victime, gravement blessée, elle est hors de danger. Première réaction ce matin de la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Samia Ghali. Marion Ferrer l'a joint il y a quelques minutes pour RTL.
Ce n'est pas un règlement de compte. On est sur une situation de quelqu'un qui a pété les plombs. On ne peut pas en France, alors que les armes sont illégales, avoir des armes qui circulent de cette façon-là. Parce qu'on voit bien que quelqu'un qui s'énerve, malheureusement, ils peuvent plus facilement passer à l'acte quand les armes sont là. Et je crois que le gouvernement était à la Seine-Saint-Denis il y a quelques heures, en expliquant qu'il y avait des moyens à mettre en place justement revenir à bout de la situation, que ce soit en termes de misère, en termes d'emploi, en termes de logement, d'éducation, de sécurité. Mais je crois que malheureusement, il y a 14 millions de Français qui vivent dans les mêmes zones que la Seine-Saint-Denis. Vous voyez, c'est toutes ces questions-là qu'il faut aussi prendre à bras le corps, essayer d'apporter des réponses de manière globale.
Samia Ghali, sénatrice des Bouches-du-Rhône, jointe il y a quelques minutes par Marion Ferrer pour RTL.
RTL Matin, 7h04.
Alors, soyons très clairs, fumer va vous coûter encore un peu plus cher à partir d'aujourd'hui.
Plus 50 centimes d'euros en moyenne pour le paquet de 20 cigarettes, 90 centimes pour le tabac à rouler. Le paquet de Marlboro le plus vendu en France vous coûtera désormais 9,30 €. La meilleure solution, c'est peut-être encore d'arrêter de fumer. Ça tombe bien, ce 1er novembre, c'est aussi le début du mois sans tabac. Qu'en pensent les accros à la nicotine? Narissa Emani est allée poser la question à Lyon pour RTL.
À la caisse du bureau de tabac, au moment de payer, c'est la surprise pour Hervé, plus 20 centimes sur son paquet. Ça l'agace, mais pas de quoi arrêter.
Franchement, non, je sais que je vais arrêter un de ces quatre, mais c'est pas ça qui me fera arrêter. C'est pas le prix, et puis je trouve pas ça normal que tout le temps s'en prend aux fumeurs.
À côté, son collègue acquiesce.
La clope, comme toute addiction, dans la contrainte, ça marche pas. Le mois sans tabac me motive plus que l'augmentation. Parce que le mois sans tabac, il y a un côté positif dans le fait d'arrêter, alors que l'augmentation, c'est fait, mais d'une façon négatif, c'est fait dans la contrainte.
Faire arrêter les jeunes, c'est le principal objectif de cette hausse. D'ailleurs, pour Tom, 19 ans, c'est le dernier paquet.
Ça devient trop cher.
Ça fait mal, ouais.
Sur un mois, ouais, ça compte en euros, quoi. Moi, je comptais arrêter, donc on va essayer.
Réduire, beaucoup y pensent, mais parlent aussi d'acheter le tabac à l'étranger. Pas de quoi inquiéter Jean-Marie, buraliste lyonnais.
Il y a quand même encore 11 millions de fumeurs en France. Alors après, évidemment, on se diversifie demain parce qu'il y aura moins de fumeurs, on le sait. On est préparé à ça, mais on va faire beaucoup d'autres activités. Et on va plus devenir un commerce de proximité. On se retrouvera.
Objectif, se diversifier d'ici à fin 2020, où le paquet de cigarettes atteindra les 10 euros.
Nerissa Emani pour RTL.
C'est une page qui se tourne à la SNCF. Après 11 ans à la tête de l'entreprise, Guillaume Pépi passe la main et c'est Jean-Pierre Farandou qui prend ses fonctions aujourd'hui même.
Un homme du cru, comme on dit, une carrière 100% SNCF puisqu'il a démarré en 81 en tant que chef de gare avant de gravir tous les échelons. Et c'est peut-être son avantage alors que l'entreprise traverse une crise sociale importante. Quelqu'un qui connaît le train, c'est plutôt bienvenu pour Didier Aubert de la CFDT.
Nous sommes impatients de le rencontrer. Je pense que les choses sont jouables de par son expérience dans l'entreprise SNCF, en ayant tenu beaucoup de postes, en ayant commencé à la base, connaissant très bien le service public. Et nous préférons un président qui a un franc-parler plutôt que d'une langue de bois. Pour autant, la tâche est rude. Les cheminots, les débats avec les cheminots sont souvent virils. Renouons et remettons en place un véritable dialogue social avec des objectifs qui sont le développement du ferroviaire dans le pays, où vous verrez que ça fonctionnera. Et en tout cas, la CFDT y croit.
Didier Aubert de la CFDT, plutôt positif donc, un son de cloche un peu différent chez Sudrail. Même si Farandou se présente comme un cheminot, l'habit ne fait pas le moine pour Bruno Poncet. C'est avant tout un chef d'entreprise avec qui il faudra batailler.
Ce sera la continuité de ce que faisait Pépi. Monsieur Farandou, il a accompagné la politique de Pépi. Il a même été souvent son bras armé. Quand on voit ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années, on voit 20 ans de Pépi, on voit dans l'état qu'est l'entreprise. Nous, on se dit que mettre quelqu'un qui a suivi tout ce qu'a fait Pépi et qui a été souvent un de ses exécuteurs, nous, on trouve qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe là nous inquiète au plus haut point. Et Farandou, il peut arriver. Ça, c'est pas de nature à rassurer les cheminots qui sont déjà, pour beaucoup, en souffrance dans leur travail. Farandou, pas Farandou, ça sera pareil.
Bruno Poncet du syndicat Sudrail, des réactions recueillies par Éric Vanier pour RTL. Une arrivée en tout cas pour Jean-Pierre Farandou dans un contexte compliqué alors que la grève continue au centre de maintenance des Hauts-de-Seine. Deux autres sites ont été touchés brièvement hier matin par des débrayages. Et si le trafic des TGV Atlantique fonctionnera jusqu'à dimanche, relativement normalement, 8 trains sur 10, il pourrait redevenir très compliqué dès lundi.
RTL Matin, 7h07.
C'était il y a quasiment un an, la France découvrait les gilets jaunes, des inconnus qui, en prenant la parole quasiment tous les jours, allaient devenir des leaders de la contestation.
Occupant tour à tour les ronds-points et les plateaux de télévision, leurs visages sont devenus familiers aux Français. Un an après, certains ont décidé de raccrocher le gilet, d'autres au contraire continuent la lutte et se préparent à être candidats aux municipales, mais en ordre dispersé et pour la plupart en laissant le fameux gilet jaune au vestiaire, Marie Mollet.
Oui, des égéries du mouvement ou des anonymes, les candidatures de gilets jaunes commencent à fleurir ça et là, avec un point commun, la bannière gilet jaune a disparu. Beaucoup le disent, l'étiquette n'a plus la cote, entachée par les violences et les divisions. Alors à Saint-Étienne, par exemple, des gilets jaunes travaillent avec la France Insoumise sur une liste commune. À Aubière, dans le Puy-de-Dôme, la figure locale se présente sans étiquette. Quant à Benjamin Cauchy, l'un des leaders du mouvement, il a été promu porte-parole du parti Nicolas Dupont-Aignan et parachuté tête de liste à Vigneux dans l'Essonne. Une candidature citoyenne, dit-il.
Il y a beaucoup de concitoyens de la commune qui me reconnaissent au détour des porte-à-porte en disant « Oui, on vous reconnaît, vous avez été un gilet jaune. Maintenant, je ne souhaite pas m'en faire une carte de visite. »
Mais une liste fait exception et revendique l'appartenance au mouvement à Paris, le Front Jaune Citoyen Paris 2020, avec déjà une ébauche de programme, un périphérique souterrain, des taxis aquatiques. Sauf que la liste a déjà du plomb dans l'aile. Son leader s'est mis en retrait pour viser encore plus haut la présidentielle de 2022.
Marie Mollet du service politique de RTL.
Dans un instant, direction Londres, on a fêté Halloween hier dans une ambiance teintée de Brexit. Malgré la crise, les Anglais savent s'amuser, vous allez l'entendre.
RTL Matin, 7h09.
Mobilier.com. RTL Matin.
RTL à 7h10, la suite du journal Dominique Tenza, Yves Calvi.
Alors vous avez peut-être fêté Halloween hier soir, déguisé jusqu'à pas d'heure. C'est en tout cas ce qu'ont fait de très nombreux londoniens qui ont sans doute besoin de se changer les idées en ce moment.
Une soirée intitulée Brexit, End of the World, traduction, le Brexit ou la fin du monde. Et le déguisement préféré cette année à Londres, ce n'était pas la sorcière ou le vampire, mais le Boris Johnson, déguisé en Premier ministre. Les Anglais n'ont pas perdu le sens de l'humour ni de la fête. Reportage Marie Billon.
Il danse comme un diable, sa tignasse blanche un peu plus ébouriffée à chaque petit saut. Il, c'est Boris, bien sûr, Boris Johnson. Sauf qu'il a du sang qui coule de ses oreilles et un air très cadavérique.
Je crois que j'ai finalement crevé dans le fossé. Comme je l'avais promis si on ne faisait pas le Brexit ce soir. Je me sens liquide en tout cas. Mais je vais renaître de mes cendres, être le premier ministre des zombies et gouverner tel un démon.
Les drapeaux européens disséminés à travers le bar semblent être le pieu qui pourrait venir à bout de ce mort-vivant. Ou bien suffit-il juste de lui verser un cocktail dans le gosier ?
Je bois une tequila mai. C'est un peu amer, c'est pas très agréable. Bon, en fait, c'est un vrai cauchemar. Mais bon, je vais serrer les dents.
Et juste à côté, c'est Marie-Antoinette qui s'amuse. Haute perruque sur la tête, cou ensanglanté. Elle sait le sort qu'elle réserve au Brexit.
Ah oui, lui couper la tête, sûrement. Haché par Montier.
Ce n'était pas la sortie aux petits oignons voulue par Boris Johnson, mais pour encore quelques mois, le Brexit continuera à hanter les Britanniques.
Donne envie de partir faire la fête à Londres, ce reportage de Marie Billon pour RTL. A-t-il été mal compris ou a-t-il dérapé au Brésil ? L'un des fils du président Bolsonaro a évoqué hier la possibilité de restaurer un régime répressif à l'image de la dictature militaire qui a tenu le pays jusqu'en 85. Si jamais la gauche se radicalisait, si la contestation chilienne s'étendait au Brésil. Des propos sur lesquels il est revenu, estimant avoir été mal compris, mais qui ont suffi à semer le trouble. Et puis cette révolution à Monaco, hier soir, les élus de la principauté ont voté à l'unanimité la loi dépénalisant le recours à l'IVG. Il était jusqu'ici puni sur le rocher d'une peine d'emprisonnement jusqu'à 3 ans et jusqu'à 18 000 euros d'amende. Mais si elles souhaitent interrompre leur grossesse, les monégasques devront cependant aller à l'étranger, car au pays des super yachts et des Lamborghini, l'avortement reste une pratique interdite.
Et on part à Calais à présent, hein, où la ville se prépare à 3 jours de fête pour célébrer l'arrivée de son dragon.
Son dragon, une immense créature installée depuis hier dans le port de la ville. 15 mètres de hauteur, 25 de long, une réalisation signée François Delarosière, créateur des célèbres machines. Il y avait déjà eu l'éléphant à Nantes, le Minotaure à Toulouse. Voici donc le dragon de Calais, 72 tonnes d'acier, de cuir et de bois. La mairie a investi 27 millions dans ce projet, c'est dire si elle y croit, espérant d'abord attirer du monde, mais aussi changer l'image d'une ville qui ces dernières années a surtout été associée à la crise des migrants. Le dragon qui va réveiller Calais, c'est RTL Un Jour en France et c'est signé ce matin Franck Hansen.
Sur le front de mer, devant les ferries qui s'élancent vers l'Angleterre, une créature impressionnante se réveille.
Ses yeux, il fait trop peur. C'est comme un vrai dragon en fait.
Tout en acier et en bois, ce dragon de 15 mètres de haut invite à un voyage imaginaire dans la cité calaisienne pour une grande parade, la plus grosse machine conçue par la compagnie de François Delarosière.
C'est un dragon qui peut nager, qui peut voler, cracher du feu, de l'eau. Il va se réveiller et puis là on donne rendez-vous à tous ceux qui ont envie de venir faire un tour à Calais dans le week-end pour aller à la rencontre de ce dragon. Il y a juste une envie de faire en sorte que la ville devienne, l'espace public en fait, devienne un lieu de rencontre, un lieu d'expression.
L'animal et d'autres créatures vont ensuite rester sur place, un équipement touristique pour changer l'image de la ville à la satisfaction de ses habitants.
Le rêve, c'est ce qu'il fallait pour Calais. C'est pas le dragon lui-même, si c'était une statue qui bougeait pas, mais c'est tout ce qui va se passer autour qui va être magique. Il va rester avec nous. Ça va être notre animal de compagnie.
Ça va amener des gens, c'est quand même impressionnant.
Je pense pas qu'il faut ramener toujours aussi l'avenir de Calais essentiellement aux migrants. Nous, on a eu l'occasion de voir à Nantes l'éléphant. Ça fait une sacrée animation.
Et des commerçants calaisiens emballés par le phénomène ont même concocté une terrine ou une baguette dragon.
Un reportage signé Franck. C'était le gros dragon que vous allez voir à quoi il ressemble. Effectivement, il est assez impressionnant.
Le sport, les Master 1000 de Paris-Bercy avec les qualifications de mon fils et de son gars hier.
Oui, les deux Français se sont qualifiés chacun en 3-7. Trois ans que Tsonga n'avait plus goûté aux joies d'un quart de finale de Masters 1000. Il jouera ce soir face à Rafael Nadal. Un gros morceau. Les chances, disons-le, sont assez minces. Mais l'essentiel pour Tsonga est sans doute ailleurs. Quel retour pour le joueur du Mans, Isabelle Langer.
Il y a un an, Joe Wilfried Tsonga pointait au 256e rang mondial. En cause, une blessure au genou gauche qui l'a tenu longtemps éloigné des cours. Le Manceau a alors dû refaire ses gammes, se reconstruire physiquement et mentalement, mettre son ego de côté aussi pour aller grappiller des points dans des tournois où la concurrence est moindre, comme à Cassis ou Orléans. Mais l'ex numéro 1 français, ne regrette rien, bien au contraire.
On m'a fait du bien de redescendre 300e mondial, de repasser par des tournois de seconde zone où tout est difficile, où il faut se battre pour tout. Et ça m'a redonné l'envie de rejouer au plus haut niveau et de savourer un peu les moments que je passe finalement dans ces enceintes qui sont extraordinaires.
Parce que depuis 15 ans qu'il sillonne la planète, Tsonga avoue qu'il avait un peu perdu le sens des réalités.
Nous, les joueurs de tennis, souvent, de l'extérieur, les gens disent c'est fabuleux, c'est incroyable la vie que vous avez, mais nous, c'est notre vie et on a l'impression que c'est la routine presque. Et moi, c'est vrai que ça m'a fait du bien de redescendre un petit peu pour me rendre compte que c'est juste pas normal d'être là devant 15 000 personnes et de jouer et d'être chouchouté.
Ce soir, contre Nadal, ce sera compliqué, mais Tsonga compte bien tout donner et surtout profiter des bonnes vibrations de Bercy, où contrairement à l'Espagnol, lui s'est déjà imposé.
Joe Wilfried Tsonga, reportage signé Isabelle Langer, pardon, du service des sports pour RTL. Le retour de la Ligue 1 de football ce soir, premier match de la 12e journée de championnat. Dijon reçoit le Paris Saint-Germain, soir de Ligue 1 sur RTL de 20h à 23h.
Nous allons mettre un terme à cet excellent journal avec les courses qui se tiennent aujourd'hui à Compiègne, Dominique Tenza.
Et voici les pronostics de Claude-Pierre Santi. Le 4, le 2, le 7, le 5, l'As, le 6, le 3 et le 10. La dernière minute, c'est le 7 Bonaparte Sizing. La course du Quintet, elle est à suivre sur 6play.fr.
Dominique Tenza, à l'heure des...